Bonsoir Edoui.
Bonsoir à toutes et tous.
Merci d'être parmi nous sur le plateau de Backseat. De quoi veux-tu nous parler ce soir ?
Je veux vous parler depuis Gaza. Depuis qu'a commencé la guerre de destruction de la Palestine menée par les actuels dirigeants de l'État d'Israël contre Gaza, mais au-delà, contre l'idée même de Palestine, dans nos médias, les principaux médias en France, nous n'entendons pas les principaux concernés, les premiers concernés, la Palestine, les Palestiniens, les Palestiniennes. Alors ce soir, j'ai choisi de prêter ma voix à une voix de Gaza. Il s'appelle Ibrahim Badra. Il a envoyé à Gwenaël Lenoir de Mediapart ce texte qui a été publié aujourd'hui et que je vais vous lire. Je rêve de pain chaud avec du zaatar et de l'huile d'olive. Voilà ce que m'a dit mon ami Mohamed quand il m'a rendu visite. Il n'a pas mangé de pain depuis plus de 3 mois. La faute au retour de la famine, plus importante encore que la dernière fois. La famine n'est pas une politique nouvelle. C'est une politique ignoble menée par les forces d'occupation israéliennes depuis longtemps. Elle date même d'avant la guerre. Mais nous avions l'habitude de faire des réserves, de tenir le plus longtemps possible et de s'entraider. Là, avec la fermeture des points de passage vers Gaza, nous ne pouvons plus tenir. Il n'y a plus de nourriture dans les magasins, même plus de farine. Et quand nous en trouvons, elle est hors de prix. Personne ne peut se le permettre. Avant la guerre, la farine coûtait 50 shekels, environ 14 dollars. Depuis, le prix est 18 fois plus élevé, à 2300 shekels, 635 dollars. De nouveaux types de pain sont apparus. Du pain de pâte, du pain de lentilles, du pain de haricots, du pain de nourriture pour animaux. Le goût est atroce et c'est dur à avaler. Mais nous n'avons pas le choix. Nous devons les manger pour éviter de mourir de faim. Aujourd'hui, de nombreuses familles dépendent de ces pains-là. D'autres ne peuvent même pas trouver les ingrédients pour les fabriquer. À Gaza, beaucoup de familles survivent avec un petit repas par jour. Beaucoup d'enfants vont se coucher en ayant faim. La faim n'est pas seulement un sentiment. C'est une condition permanente qui domine nos corps et nos esprits, qui nous vole notre énergie, nos rêves et nos droits fondamentaux d'être humain. Et tout cela se déroule sous les yeux d'un monde qui ne fait que regarder, faire des promesses creuses et émettre des condamnations superficielles. Malgré tout, nous tentons d'être résilients. Nous cherchons l'espoir dans des petits détails. Un morceau de pain, une gorgée d'eau propre, le rire d'un enfant qui oublie momentanément la faim. Ce n'est pas parce que nous sommes habitués à la douleur que nous y parvenons. C'est parce que nous rêvons d'une vie meilleure, une vie où nous aurions de nouveau du pain frais et de l'huile d'olive à notre table. Les organisations internationales telles que l'UNVRA, l'UNICEF et le Programme alimentaire mondial font ce qu'elles peuvent, mais avec des ressources limitées, les refus d'approvisionnement et les frontières fermées. Cela ne suffit pas. Les enfants en paient le prix fort. Leur santé se détériore rapidement en raison du manque de nourriture et d'eau potable. Certains meurent de faim ou de malnutrition sévère. Ils étaient sévèrement amaigris, presque squelettiques, avec la peau très pâle et les yeux exorbités. Des âmes d'innocents qui auraient dû vivre, rêver et grandir, si seulement on avait pu leur donner une miche de pain par jour. Lorsque j'ai travaillé dans les camps de déplacés, nous allions voir les enfants. Nous regardions leurs dessins, fenêtres étroites sur leur monde fracassé et leurs rêves en suspens. La plupart de ces dessins racontaient leurs histoires. Des tentes blanches, trempées par la pluie de l'hiver, des avions au-dessus de leur tête, des déplacements incessants et des enfants apeurés tenant la main de leur mère. C'est le dessin d'un jeune garçon qui m'a le plus frappé. D'un pinceau tremblant, il a dessiné un entrepôt rempli de sacs de farine et de paniers de nourriture avec des gens faisant la queue. Il n'a pas dessiné des jouets, des jardins, des écoles, des maisons, mais de la farine et de la nourriture. Un repas est-il devenu un souhait plutôt qu'un moment de vie ? Une miche de pain est-elle devenue un rêve quand d'autres enfants souhaitent un nouveau vélo ou un voyage scolaire ? Ce dessin, en dépit de sa simplicité, montre bien l'ampleur de la crise. Ce n'était pas que le produit de l'imagination d'un enfant. C'était le témoignage vivant de la tragédie d'un peuple entier luttant contre la faim et l'état de siège. C'était un cri étouffé. La faim a tout volé, même les rêves des enfants. Le monde est silencieux. La famine n'est pas une catastrophe naturelle. La famine est une politique méprisable et délibérée, utilisée par l'occupant pour opprimer la population de Gaza. Elle s'inscrit dans une longue durée, dans une longue série de blocus. L'objectif est clair, briser la résistance de la population et l'affamer pour qu'elle se rende. Les institutions internationales multiplient les rapports et les avertissements. Mais les gouvernements regardent ou publient des communiqués vides de sens qui échouent à empêcher que les enfants meurent de faim. Les marchés sont vides, les estomacs sont vides, les gens courent après des miettes de vie pendant que le monde reste empêtré dans ses petits calculs politiques. Jamais, jamais, le monde n'avait assisté à un tel génocide et à une telle famine. Ici, à Gaza, un morceau de pain est devenu une arme. C'est signé Ibrahim Badra. Ce texte a été confié à Gwenaël Lenoir de Mediapart. Il vit à Gaza toujours. Il est journaliste et défenseur des droits humains. Il a 23 ans. Il est détenteur d'un diplôme en littérature anglaise et traduction de l'Université islamique de Gaza. Il aurait dû retirer son diplôme le 7 octobre 2023. Il est né dans une famille originaire de Jaffa, réfugié de 1948, la Nakba, installé dans le quartier de Sabra, non loin de la vieille ville de Gaza. Lui-même, à son jeune âge, a déjà connu 7 guerres, avant celle déclenchée en octobre 2023. Il y a survécu, comme il survit, pour l'instant, au génocide. Ibrahim affiche des intérêts pour la traduction, la littérature, les textes politiques, l'éducation. Et son travail depuis 1 an et demi consiste à documenter la réalité des Gazaouis, plaider pour les droits humains et porter la voix des Palestiniennes. Dans sa dernière phrase, Ibrahim se trompe sans doute quand il dit « Jamais le monde n'avait assisté à un tel génocide et à une telle famine. Il y a eu d'autres famines, il y a eu d'autres génocides. Mais tout génocide est unique. Tout crime contre l'humanité est incommensurable. Les comparer, les opposer n'a pas de sens. Le génocide des Héréros, des Arméniens, des Juifs d'Europe, les crimes génocidaires dans la guerre de Yougoslavie contre les musulmans de Bosnie et évidemment le génocide des Tutsis contre les Tutsis au Rwanda. J'aimerais que nos dirigeants écoutent ces mots, ces phrases, et qu'ils se taisent, mais qu'ils agissent. Il n'est plus temps de barguigner. Notre protestation doit être à la hauteur de la dignité des Palestiniens. Ils ne se lamentent pas, vous l'avez vu, vous l'avez entendu. Ils ont une immense force dans leur façon de faire face. Et nous ne pouvons pas nous faire plaisir avec des querelles, des mesquineries, des polémiques minables, des abaissements médiatiques et politiques. Il s'agit de l'humanité, il s'agit des droits fondamentaux, il s'agit de nous. Et en évoquant les génocides et les crimes contre l'humanité précédents, j'ai rappelé que ce qui est resté en dehors des montagnes de cadavres, c'est la honte, La honte de ne pas avoir agi. La honte d'avoir été indifférent. La honte d'avoir laissé faire, alors que l'on savait, alors que cela se passait sous nos yeux. Alors oui, taisez-vous, mais agissez. Les dirigeants criminels actuels de l'État d'Israël, poursuivis pour crimes contre l'humanité, pour crimes de guerre et potentiellement pour génocide, n'entendent qu'un langage, celui de la force. Il faut des sanctions. Tout l'arsenal est disponible, sanctions diplomatiques, sanctions militaires évidemment, sanctions commerciales, sanctions économiques. Il faut mener le même combat qui a fait tomber l'apartheid en Afrique du Sud. Il en va du salut de nous-mêmes, puisque nous ne sommes qu'une petite part de l'humanité. Merci.
Merci beaucoup, Edoui, pour cet Edoui Tour.